Vous écoutez RTL.
RTL.
1 000 milliards de mises à bord. Tout a disparu. Et vous n'avez rien entendu, ni Milou non plus.
La curiosité est un vilain défaut.
Quand j'ai créé Tintin, je me suis dit qu'il ne pouvait pas être seul. Or, c'était un reporter. Un reporter, c'est fait pour voyager. Il est plus facile de voyager avec un chien qu'avec une girafe, une autruche ou un crocodile.
Jusqu'à 22h.
C'est un peu le Sancho Panza de ce Don Quichotte qu'est Tintin. Chose tes pantoufles et laisse aller les choses.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
J'adore sa chose, tes pantoufles.
C'est pas mal, c'est Hergé qui nous explique pourquoi il a choisi un chien pour accompagner Tintin plutôt qu'un alligator ou une girafe. Effectivement, ça aurait changé la face de ses bandes dessinées. C'est la première fois que le Grand Palais consacre une exposition à la bande dessinée. C'est sans surprise pour rendre hommage au héros et au père de la BD moderne, Georges Rémy alias Hergé. Et on vous raconte ce destin exceptionnel avec l'écrivain, réalisateur et scénariste de bande dessinée, Benoît Peters. On vous doit notamment, avec François Chuiten, la célèbre série des Cités Obscures, dont je suis fan et je suis très heureux de vous avoir
merci.
RTL dans le studio de La Curiosité. Alors, on va continuer d'écouter avant d'entendre le son de votre voix, la voix d'Hergé qui nous raconte comment il a créé le personnage de Tintin. On est tout simplement à la télévision, apostrophe 1979, pour les 50 ans de la création de Tintin.
Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier que je les illustrais. Et puis après, lorsqu'on m'a confié la rédaction de ce petit supplément illustré, qui s'appelait Le Petit 20e, parce que c'était un supplément de ce journal, Le 20e siècle, j'ai donc pensé à faire une histoire d'un petit bonhomme. Mais comme je savais très mal dessiner, je dessinais très 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 mal, et que je me disais que ça allait tout de même durer quelques semaines, je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Benoît Peters, Hergé jouait-il en quelque sorte un rôle quand il donnait des interviews ?
Et Hergé se méfiait un peu des questions dérangeantes, et c'est vrai que longtemps il a été invité surtout dans les émissions pour les enfants, les questions étaient un petit peu attendues, et il s'est habitué à répondre sans répondre tout à fait, ou à répondre un petit peu la même chose. Moi qui ai eu la chance de le connaître, de le rencontrer plusieurs fois, j'avais été frappé très tôt par la différence entre le Hergé devant le micro et le Hergé sans le micro. Le ton même de sa voix changeait et il devenait beaucoup plus profond, beaucoup plus lucide. Et plus tard, évidemment, en lisant des lettres, en entendant ses proches, j'ai vu qu'Hergé n'était pas ce personnage éternellement ravi.
Et mais surtout quand il dit « moi je sais pas trop dessiner, moi, on le croit ou pas Hergé ?»
Bon, c'est vrai qu'il a fait des progrès considérables après Tintin au pays des soviets, mais il y a déjà des choses magnifiques. Il avait au début une sorte d'allégresse, de sens du mouvement, de l'énergie, de la vitesse. Et petit à petit, il a évolué vers un dessin plus précis, plus documenté, plus rigoureux. Mais certains amateurs, et parmi les jeunes auteurs de bande dessinée, certains aiment beaucoup le tout premier Hergé. Il a une liberté dans le noir et blanc, il a une audace, il a du culot.
C'est quoi la liberté dans le noir et blanc ?
Eh bien, la liberté dans le noir et blanc, c'est de ne pas s'encombrer de détails. On peut suggérer une rue avec trois traits, une maison avec quatre pierres, et le mouvement, on peut aller jusqu'au bout. Quand vous avez des voitures, par exemple, dans Tintin au pays des soviets, mais ces voitures se déforment dans le virage, c'est extraordinaire, on est un peu comme dans les photos de l'Artigue, on est dans le mouvement pur. Et ça, c'est quelque chose qu'Hergé a eu très tôt, et je pense qu'il a séduit les enfants, malgré les maladresses du début. Il était, à cause du patron de son journal, dans quelque chose d'un peu traditionnel, d'un peu sage, d'assez conservateur, mais par sa manière de dessiner et de raconter, il était en plein dans le XXe siècle.
Alors on va raconter, grâce à vous, son histoire. Vous publiez, Benoît Peters, aux éditions Flammarion, Hergé, fils de Tintin. Vous décrivez une personnalité complexe, tourmentée, dès sa jeunesse, par quoi ?
Tourmenté par beaucoup de choses. D'abord, une enfance pas très heureuse. Il faut se souvenir qu'Hergé est né en 1907, donc son enfance, c'est beaucoup la Première Guerre mondiale. Et à Bruxelles, où il vit, la Première Guerre mondiale est particulièrement rude. Il y a la peur, il y a le froid, il y a les privations. Donc ça, c'est une première chose. Il restera traumatisé par cette image de la Première Guerre, même s'il en parle peu. Et puis, il y a la personnalité de sa mère, qui est une mélancolique. Une femme qui va avoir des accès dépressifs de plus en plus importants. Alors oui, elle est proche de lui, elle l'emmène au cinéma, sur ses genoux quand il est tout petit, mais en même temps, c'est une mère très peu sécurisante. Et je me souviens que quelques semaines avant la mort d'Hergé, quand je le rencontre pour la dernière fois, pour une longue interview, je lui dis « mais vous parlez peu de votre enfance, vous parlez peu de votre père, mais jamais de votre mère ». Et un silence s'installe et il dit « oui, j'ai l'impression de l'avoir somme toute très peu connu. Ce qui est étrange quand même pour parler de sa propre mère. Ouais. Elle n'est pas morte quand il était enfant, simplement, elle est morte folle.
Est-ce qu'il s'en est servi de la folie de sa mère? Est-ce qu'elle l'a inspiré? Est-ce qu'il l'a expié en quelque sorte dans ses albums de Tintin?
La folie est très présente dans les premiers Tintins. On se souvient du Rajaja, le poison qui rend fou. On se souvient de scènes dans l'île noire, dans les cigares du pharaon, qui sont un petit peu folkloriques.
Les sept boules de cristal aussi.
Les sept boules de cristal. Mais dès que la folie emporte sa mère, qu'il voit la folie dans sa brutalité et sa violence, ce thème disparaît. Et au fond, on a quelque chose de très curieux. C'est qu'Hergé va rester longtemps un grand enfant. Une grande partie des aventures de Tintin sont créées dans une forme d'énergie et d'insouciance, mais qu'après la guerre, à partir de 1946-47, donc au moment où il a 40 ans, quelque chose de beaucoup plus sombre arrive chez lui. Et une chose qu'on sait très peu, parce qu'Hergé ne le racontait pas, c'est qu'il a eu lui-même d'énormes accès dépressifs et que, par exemple, un album magnifique, un double album extraordinaire comme Objectif Lune, On a marché sur la Lune, a été interrompu pendant un an et demi par une violente dépression. Hergé, il a même écrit aux lecteurs du journal Tintin pour leur expliquer le problème qui était le sien.
Oui, et le journal de Tintin a titré « Hergé a disparu à cette époque-là ». On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on continue de parler des premiers pas d'Hergé, qui ne s'appelle pas encore Hergé. D'ailleurs, il s'appelle Georges Rémy. Ses premiers dessins, où sont-ils publiés, en fait?
Il commence à dessiner dans les journaux scouts. Le scoutisme est la grande affaire de sa jeunesse. C'est un scoutisme qui débute, c'est les premiers voyages. Il sort enfin de Bruxelles, une espèce d'autocar bricolé. Il part en Autriche, en Suisse, en Italie. C'est des vraies aventures et il dessine. Hergé dessine tout le temps. Et on est tellement enthousiasmé qu'on publie dans les journaux scouts, d'abord ceux de sa troupe, puis le Boy Scout belge, le journal principal. On publie ses dessins. Il devient connu comme le scout qui dessine.
Et donc il devient Hergé, Georges Rémy devient Hergé à quel âge?
Il a 17 ans au moment où il forge son pseudonyme. Alors vous savez, Georges Rémy, ça fait les initiales GR, il les permute, R.
Allez hop,
point,
du verlan.
G. Point, et puis il trouve une jolie orthographe et il va trouver une signature, une manière de placer son nom. Vous savez, le jeune Hergé ne rêvait pas de bande dessinée, il rêvait de faire de la publicité. C'était ça qui, à l'époque,
le frappait. Trouver des slogans, c'est ça ?
Trouver des slogans, mais trouver aussi des compositions fortes. Trouver une manière de dessiner la lettre. Et il a fait de premières affiches, qu'on verra à l'exposition du Grand Palais, qui sont très réussies, qui sont une autre facette de son talent. Et les couvertures de Tintin sont elles-mêmes des affiches de vraie publicité. Souvenez-vous, par exemple, d'une couverture extraordinaire comme celle du Lotus Bleu. On est en plein mystère. Ce n'est pas une scène de l'histoire, c'est une image qui nous fait rêver.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Descends donc, Cro-Magnon macrocéphale, ectoplasme! Montre-toi donc, diplodocus babois, mégalomane, flibustieux!
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité de découvrir.
Je crois que le capitaine Haddock en voulait à quelqu'un là.
Ouais, il n'était pas après nous, vous croyez?
Non.
Ah non, il
pas,
nous aime bien, il nous écoute,
pas.
Je pense.
Vous êtes un voisin.
Oui, j'imagine qu'il faisait un peu trop de bruit.
Voilà.
On découvre l'histoire du père de la BD moderne Hergé à l'occasion de l'exposition au Grand Palais. Avec nous sur RTL, on a la chance d'avoir Benoît Peters, grand scénariste de bande dessinée et grand connaisseur aussi de la vie d'Hergé. C'est un phénomène, Hergé, aujourd'hui encore. Plus de 30 ans après sa mort, est-ce que ses planches originales se vendent toujours aux enchères?
Ben de son
et
temps,
cher.
Elle ne se vendait pas du tout aux enchères. Ouais. Il arrivait qu'il offre même des pages au crayon à des gens qui venaient lui rendre visite, qui, pour quelques-uns, les ont vendues très chères plus tard. Pour lui, l'essentiel, c'était les livres. Et puis, il y a eu cet engouement pour ses dessins. Et peu à peu, les originaux ont commencé à atteindre des cotes absolument spectaculaires. Il aurait trouvé ça dément.
Et on parle de quoi? De centaines de milliers d'euros?
À la planche la plus chère a été vendue 2 650 000 euros, ce qui est quand même record, je crois, absolu pour une page de bande dessinée.
Elle racontait quoi, cette
planche ? Un très, très beau dessin. C'était la double page qui faisait les pages de garde des albums, les anciens albums. Donc ça avait été dessiné vers la fin des années 30. On voit Tintin et Milou dans toutes les situations possibles, y compris d'ailleurs dans une aventure dans le Grand Nord qui n'a jamais été dessinée. C'était quelque chose qui intriguait les lecteurs. C'est un très beau dessin, mais enfin bon, voilà.
C'est quand même faramineux. Donc c'est une espèce, cette double page, cette planche, c'est une espèce de voyage dans les différentes aventures de Tintin, en fait, c'est ça?
Ça résume
ça
un
résume,
peu,
d'accord.
Mais le Tintin des débuts, puisqu'on ne voit pratiquement pas, on ne voit pas du tout la plupart des personnages qu'on connaît. On voit les Dupont, mais on ne voit ni Haddock, ni Tournesol, qui sont apparus beaucoup plus tard dans l'œuvre.
Comment il les a créés, Tintin, ces personnages, à partir de certains de ses proches? Il l'a observé autour de lui?
il les a surtout créés quand il n'arrivait plus à se projeter uniquement dans Tintin. C'est une série qui a évolué avec lui, c'est-à-dire que le RG de la maturité, tout d'un coup, il trouve peut-être Tintin un peu simplet, un peu enfantin, alors il crée Haddock. Mais Haddock a du mal à arriver dans la série parce qu'au début, c'est un alcoolique assez pitoyable qui se laisse berner par son lieutenant sur le cargo carabougeant. Oui. Tournesol aussi aura beaucoup de mal à arriver. Il veut, au début du trésor de Rackham le Rouge, présenter son invention. Un petit sous-marin de poche qui va les aider à explorer les fonds sous-marins. Mais comme il est sourd, comme il est excentrique, on se méfie de lui. Et il va devoir s'embarquer sur le Sirius comme passager clandestin. C'est le signe que l'œuvre d'Hergé est toujours très vivante. Il n'a pas eu un grand plan, il n'a pas eu un projet. Au début, voilà, il part avec Tintin et Milou. Et peu à peu, cet univers s'enrichit de dizaines et de dizaines de personnages dont on se souvient.
On avait dit dans une émission il y a quelques mois à propos de l'univers d'Hergé que par exemple les Dupont, il les avait créés en observant son oncle et son père.
Et son père,
c'est ça ?
Oui, son oncle et son père étaient frères jumeaux. Alors c'est une histoire très drôle parce que Hergé a créé ces deux policiers caricaturaux, catastrophiques, qui ne font que bêtises sur bêtises, qui
et
sont quand même...
Ils sont deux, hein.
Et donc, il ne s'est pas rendu compte sur le moment qu'il pensait à son père et à son oncle. Ils s'habillaient pourtant toujours de la même façon. Ils ont vécu presque côte à côte toute leur vie. Et à la fin de leur vie, dans les quartiers de Bruxelles, dans les bistrots de Bruxelles qu'ils fréquentaient, on les appelait les Dupont, sans savoir le lien direct qu'il y avait. Donc, il y a plein de petits détails de la vie d'Hergé qui nourrissent ces albums. On a le sentiment qu'il n'a pas fait une œuvre pour les enfants. Il a fait une œuvre d'abord pour lui-même, avec tout ce qu'il était. Et c'est peut-être pour ça que les adultes les relisent avec autant de plaisir que les enfants. C'est vraiment une œuvre qui passe les générations et qui passe les frontières aussi.
Si on parle un peu de la vie personnelle d'Hergé, en 1932, il épouse une femme, c'est Germaine Kickens, je prononce bien,
pas
c'est
mal,
ça
pas mal, pas mal. Oui.
Mais ça serait plus quoi, pour me dire très bien, par exemple, faudrait que je dise comment ?
Germaine Kickens.
Kickens. Comment voilà. Est-ce qu'il l'a rencontrée, sa femme Hergé ?
Alors, elle travaillait dans le même bureau que lui. C'était la secrétaire du patron du journal, l'abbé Wallet. Et Hergé était plus intéressé par Germaine que Germaine ne l'était par ce jeune Georges, qu'elle trouvait un peu immature. Alors il a dû faire une cour assidue et on a l'impression que dans les premiers Tintins, les premiers travaux de publicité, il essaye de lui montrer qu'il est quelqu'un. Après 3-4 ans de fiançailles, elle accepte de l'épouser et bon, elle sera très associée à la première période des aventures de Tintin. Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontrée, j'avais fait un gros livre qui s'appelait Le Monde d'Hergé. Elle m'accueille sur le pas de la porte et dit: Monsieur, je ne vous félicite pas. Je dis, ah bon ? Oui, vous avez fait un livre de 300 pages, il y a 3 lignes sur moi.
C'est drôle.
Je dis, oui, mais c'est un livre sur l'œuvre, pas sur l'homme. Elle dit, ah, parce que dans l'œuvre, je n'ai rien fait peut-être. Et effectivement, j'ai découvert au fil des ans tout ce qu'elle avait apporté, tout ce qu'elle avait fait. Elle avait été le sparring partner de Hergé pendant longtemps et discutait de tout. Parfois, elle l'aidait pour finir les pages tard le soir, car il a été un bourreau de travail. Elle parlait de lui avec une certaine ironie, parfois un peu cruelle. Il faut dire qu'à un certain âge, il l'avait quitté, il s'était séparé et qu'elle l'a très très mal vécu. Alors elle me disait, je raconte encore ça, je disais, écoutez monsieur, c'était un gentil garçon, il avait beaucoup de talent, surtout pour la réclame, mais... Arrêtez de nous en faire Michel-Ange.
C'est drôle. Donc la façon dont sa première femme parle d'Hergé, vous racontez ça dans votre livre. Hergé, fils de Tintin, c'est publié chez Flammarion. Pardon, Benoît Peters, toujours à propos de ce couple, la veille de leur mariage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent ?
Ils doivent faire le bouclage du journal et puis ils partent en voyage de noces au Luxembourg, ce qui n'est pas très loin de Bruxelles. Ouais. Et l'abbé Wallet leur fait signe de revenir précipitamment parce que le boulot les attend. Parce que Germaine faisait la page de la femme dans le journal Le XXe siècle, alors qu'Hergé faisait lui le supplément des enfants. Mais très vite quand même, Tintin a eu du succès. Il y avait une foule d'enfants Gare du Nord à Bruxelles pour l'accueillir au retour de Tintin au pays des Soviets. On avait déguisé un jeune homme, puis au retour de Tintin au Congo. Et le journal voit ses ventes augmenter dans des proportions incroyables le jour où paraît Tintin, le jeudi, le jour où il y a le supplément, le petit 20e. Et donc, peu à peu, Hergé devient bien considéré, il devient l'employé le mieux payé de son journal. Et les albums commencent à marcher, même si dans les années 30, c'est surtout en Belgique qu'ils sont connus.
Juste après les infos, on continue de vous raconter l'histoire d'Hergé, le créateur de Tintin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue aux curieux qui nous rejoignent sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Tout à l'heure, on découvrira des merveilles technologiques avec les frères Bogdanov.
Mais tout de suite, retour sur un destin, comme on les aime ici à la curiosité, un destin exceptionnel, celui du père de Tintin, Hergé.
RTL.
À table, je lui dis, monsieur Hergé, moi, je voulais être grand reporter comme lui, j'ai lu tous les Tintins, Objectif Lune, tout, il a bien vu que je connaissais bien Tintin, et tout d'un coup il me dit, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je lui dis oui, je lui dis, vous vous êtes inspiré du visage de Bécassine pour faire Tintin? Il me dit, oui, regardez Bécassine, retirez-lui sa coiffe et vous verrez Tintin. Je le tiens d'Hergé, je ne tiens pas de Hondi.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Anecdote racontée par Jean-Jacques Debout aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Notre invité Benoît Peters, qui est écrivain et scénariste de bande dessinée et qui a publié une biographie d'Hergé, fils de Tintin, chez Flammarion, nouvelle édition à l'occasion de l'expo au Grand Palais. Vous êtes d'accord? Il s'est inspiré de Bécassine pour créer Tintin?
C'est possible. En tout cas, il s'est inspiré de beaucoup de choses. Hergé retenait, il avait une mémoire visuelle extraordinaire. Ça pouvait aussi bien être Bécassine, mais c'est quand même, Tintin est quand même bien différent, qu'un document qu'il voyait. On m'a montré certains journaux où à l'arrière-plan, on voit un personnage de Chinois qui passe dans une rue. 5 ans après avoir vu cette revue, Hergé utilise ce petit personnage à l'arrière-plan d'une case de Tintin. Peu à peu, il va y avoir une capacité d'absorber les images du monde, et c'est très extraordinaire parce que, par exemple, quand Tintin part au Pérou, Hergé n'y est jamais allé, il n'a pratiquement pas voyagé. Or, l'ambassadeur du Pérou en Belgique lui dira un jour, mais à quand remonte votre dernier voyage dans notre pays? Hergé lui dit, malheureusement, je n'y suis jamais allé, peut-être un jour. Et l'ambassadeur lui dit, allons, je sais reconnaître mes paysages. Et donc, il y avait une capacité qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyagez, bon, moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Chine, par exemple, Shanghai, bien sûr, a été bouleversé. Mais vous retrouvez quand même le lotus bleu dans les rues de Shanghai. Et les Chinois qui aujourd'hui lisent Tintin, parce que c'est le pays où il se vend le plus de Tintin aujourd'hui, les Chinois l'aiment et le considèrent quasiment comme un Chinois. Donc il y a une forme d'authenticité qui est passée chez cet homme qui ne voyageait pas et qui a réussi à représenter le monde.
Alors il y a une période compliquée, je disais zone d'ombre tout à l'heure, dans la vie d'Hergé, c'est la fin des années 30 et le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans le journal où il travaille, il y a une forte influence d'extrême droite, est-ce qu'on peut dire ça?
C'est-à-dire que Hergé a eu sa chance dans ce journal Le XXe siècle, qui était très à droite et très catholique. Mmh. Avec la guerre, en mai 40, le journal disparaît. À cette époque, les albums se vendent très peu. Hergé dit dans une lettre à son éditeur, Casterman, je commençais à me demander si j'allais pas adopter la profession de chanteur de rue. Je ne sais pas s'il aurait eu du succès comme chanteur de rue, mais le fait est qu'il ne pouvait pas gagner sa vie. Le roi des Belges, en 40, lance un appel à la reprise du travail. Hergé va dans un journal qui était le plus grand journal belge avant la guerre, Le Soir. Simplement, Le Soir, à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait le même journal. On l'appelle parfois Le Soir volé. Il est sous contrôle des Allemands. Le journal est franchement collaborationniste. Mais Hergé, lui, pense qu'il peut continuer à publier les aventures de Tintin du moment qu'il n'y met pas de politique. Il ne se rend pas compte que le contexte va jouer et qu'au fond, il cautionne un petit peu ce journal par son talent et sa popularité. Donc après la guerre, ça lui sera reproché.
Il sera arrêté.
Il est arrêté très brièvement, il est interrogé plusieurs fois, il n'est pas au procès des journalistes du Soir. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit pour de bonnes raisons. C'est peut-être parce qu'on ne prenait pas au sérieux la bande dessinée, tout simplement. Comme les journalistes sportifs, etc. On les considérait comme des gens un petit peu irresponsables. Mais Hergé, même s'il n'est pas dans le procès, même s'il n'est pas arrêté, voit beaucoup de ses amis qu'il considérait comme des gens loyaux et proches avoir de gros ennuis, certains être condamnés gravement. Et ça va le plonger dans le doute, ça va le plonger dans la dépression qui, pendant les années d'après-guerre et pendant assez longtemps, va être très 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 importante pour lui. Il est certain qu'il l'a payé moralement. Il a eu le sentiment que lui, qui avait eu un parcours sans faute, si j'ose dire, mais un parcours vers le succès jusqu'à l'âge de 37 ans, c'est l'âge qu'il a en 1944, tout d'un coup la machine se grippe, tout d'un coup le doute s'installe, il songe même dans l'après-guerre à arrêter Tintin. Alors c'est très curieux parce que c'est le moment où apparaît le journal Tintin, qui va avoir un succès énorme, qui va contribuer à le populariser, qui se construit sur son nom. Et puis, on voit Hergé, qui devrait en être le centre, incapable de continuer ses histoires, disparaissant en Suisse pendant des semaines, sans donner de nouvelles.
Il fuguait, en quelque sorte ?
Il fugue. Et il écrit à ce moment-là, et je les cite dans ma biographie, des lettres magnifiques à sa femme, des lettres où on voit la profondeur de son tempérament artistique, l'exigence par rapport à lui-même. Il se demande, par exemple, à ce moment-là, si Tintin peut lui permettre d'exprimer des émotions plus subtiles. Avant, il était tout d'une pièce. Avant, il cherchait l'aventure et la drôlerie. Maintenant, il aimerait donner des nuances de sentiments. Mmh. Et il se demande si la bande dessinée peut le faire. Eh bien, il y parviendra quelques années après.
Avec quels albums, par exemple,
avec Tintin au Tibet, qui est un album bouleversant où Tintin retrouve son ami Chang, qui était perdu. Tintin, seul contre tous, décide de partir dans l'Himalaya à sa recherche. Il va arracher Chang des griffes, mais des griffes douces du Yeti, le supposé abominable homme des neiges. Mmh. Et c'est un album où, moi, je me souviens quand je le lisais à mes fils quand ils étaient tout petits, qu'on terminait toujours la lecture en larmes, tous les trois.
L'histoire de Chang, c'est aussi l'histoire d'une vraie amitié entre Hergé et un jeune étudiant des Beaux-Arts qui débarque à Bruxelles. On va vous raconter cette histoire tout de suite sur RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Ces albums se sont vendus à plus de 250 millions d'exemplaires, dont 230 pour le seul Tintin imaginé. Hergé, le père de la BD moderne, est exposé au Grand Palais. Et on découvre sa vie dans la curiosité grâce à notre invité Benoît Peters, scénariste de bande dessinée, écrivain et auteur notamment de cette très belle bio Hergé, fils de Tintin, qui est publiée chez Flammarion. On parle des personnages, des personnes qui ont inspiré Tintin, son écriture, ses histoires. Il fait une rencontre, il y a une rencontre qui va changer son regard. C'est un jeune Chinois qui est venu faire des études aux Beaux-Arts à Bruxelles. Il s'appelle Chang Chongzhen. Est-ce que Chang, à son tour aussi, a influencé Hergé ?
C'est une influence considérable. En fait, Hergé a 26 ans quand il le rencontre et il n'a jamais eu d'occasion de rencontrer des représentants d'autres peuples, d'autres cultures. Il faut bien imaginer que quand il fait un temps au Congo, il ne rencontre pas d'Africains.
Oui, parce qu'il voyage très peu, vous l'avez dit.
Il ne voyage pas et puis il n'y a pas tant d'étrangers à Bruxelles en ce temps-là.
Et Tintin au Congo, c'est quand même une vision raciste,
oui,
colonialiste.
Enfin, en tout cas paternaliste, colonialiste, oui. Dans l'esprit du temps, 1930, largement partagé.
Mais Chang va changer son regard.
Ça change beaucoup parce que d'abord, il rencontre un artiste, un jeune artiste, qui non seulement lui apporte de la documentation, mais qui lui montre comment on dessine, comment on peint en Chine, qui lui apporte des pinceaux, qui l'initie à de nouvelles techniques. Donc c'est un maître. Mais Chang lui raconte aussi la guerre dont est victime la Chine, dont souffre sa famille, l'invasion de la Mandchourie par le Japon. Et Hergé, qui comptait raconter une histoire comme ça, un peu légère, un peu feuilletonesque, tout d'un coup prend conscience d'une forme de responsabilité. Cette responsabilité par rapport à l'autre, par rapport aux autres cultures, il va la traduire dans le Lotus Bleu en faisant de Chang un personnage. Et ce personnage devient l'ami de Tintin. C'est le même Chang que Tintin retrouvera dans Tintin au Tibet. Donc c'est un jalon très fort. Mais dans la vie d'Hergé, les traces continuent extrêmement longtemps. Et là, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'au fond, j'appelle Hergé le fils de Tintin. S'il n'avait pas fait le Lotus Bleu, s'il n'avait pas envoyé Tintin en Chine, il n'aurait pas fait cette rencontre qui l'a bouleversé fondamentalement, qui a créé tout au long de sa vie une curiosité pour la pensée chinoise, pour l'art chinois, qui l'ont toujours accompagné. Et cette histoire est très belle, puisque évidemment, les deux hommes vont se retrouver très âgés. Hergé, à l'époque,
mais d'abord, il faut expliquer
était déjà malade.
Pourquoi ils sont séparés ? Pardon, je vous interromps, Benoît Peters. Ils sont séparés. Chang doit quitter la Belgique en 1935,
c'est
ça ?
Chang doit rentrer pour retrouver sa famille, qui est en difficulté. Et puis, arrive la guerre, puis arrive la révolution chinoise. Et c'est très tard qu'Hergé réussit, après avoir posé la question un peu partout autour de lui, mais il prononçait mal le nom de Chang, il réussit finalement à trouver une trace. Il écrit, on est en pleine révolution culturelle. Chang a été humilié pendant la révolution culturelle. Il a dû détruire une partie de ses propres œuvres. Les albums que Hergé lui envoie ont beaucoup de mal à parvenir, mais finalement le lien se rétablit et la fin de la vie de Chang sera illuminée par cette rencontre. Chang va d'ailleurs même faire à la fin de sa vie le bus du président Mitterrand. Il sera invité par Jack Lang, il va résider en France, etc. Mais on ne sait pas, et c'est une histoire qui est très touchante, on ne sait pas si somme toute Jack Lang invitait le Chang de Tintin ou le véritable Chang, ancien directeur de l'Académie de sculpture de Shanghai. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de rencontrer Chang qui a disparu il y a pas mal d'années et qui peut-être a été lui aussi complètement troublé par ce qui lui arrivait. Il rencontre un tout jeune homme, il l'aide, il vient tous les dimanches, ils travaillent ensemble. Et puis, 45 ans plus tard, il revient et c'est devenu une star. Et quand Chang est arrivé en Belgique, puis en France, il était accueilli comme un ambassadeur, comme un chef d'État, comme une haute personnalité, avant tout en tant que personnalité des aventures de Tintin, ayant ému des millions de lecteurs. Et bon, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui ont des critiques un peu dures sur Hergé, où on dit Hergé, oui, tata, le Congo, les Soviets, mais... Je crois que c'est une des plus belles leçons d'antiracisme qui soit que le Lotus Bleu.
C'est passionnant avec vous, Benoît Peters. On rencontre ces personnages qui ont changé la vie d'Hergé et changé aussi évidemment l'histoire des Tintins qui ont bercé notre enfance et qu'on lit encore aujourd'hui. Vous parliez des épisodes assez fréquents de dépression d'Hergé. Il y a une femme qui va le sortir de sa dépression. Elle s'appelle Fanny Vlaminck. Et dans votre livre, vous racontez leur première rencontre, c'est en 1955. C'est d'abord une rencontre professionnelle.
Oui, elle entre comme coloriste au studio Hergé et puis comme elle veut se perfectionner, elle travaille assez tard le soir et donc ils sont les derniers dans le studio, ils parlent, ils ont l'occasion de se découvrir et ce sera une relation assez heureuse, mais à un moment où Hergé commence à prendre un petit peu de distance par rapport à Tintin. La dernière partie de sa vie, il commence à voyager. Alors que Tintin ne voyage presque plus, hein, dans les bijoux de la Castafiore, il reste au château de Moulinsart avec Haddock et Tournesol. Et Hergé commence à se passionner pour la peinture moderne, à faire une collection, etc. Il se détache un petit peu de Tintin. Pendant longtemps, l'évolution d'Hergé accompagne celle de Tintin et enrichit l'univers. Et tout d'un coup, j'ai l'impression avec Fanny que c'est un petit peu Georges Remy qui reprend le pas sur Hergé.
Et qui se passionne pour l'art contemporain, vous l'avez évoqué très rapidement, ça veut dire qu'il devient un acheteur
Oui, il a d'abord voulu faire de la peinture, et puis se rendant compte que bon, la bande dessinée c'est quand même pas mal, et que peut-être on n'a pas deux vies et la possibilité de tout recommencer à 55 ans, il va acheter de la peinture moderne. Alors, des artistes comme Andy Warhol, le pop art, qui est assez proche peut-être de l'esprit de la bande dessinée, mais aussi... de la peinture abstraite, des toiles exigeantes. Hergé rompt avec beaucoup d'amis de sa jeunesse, du début de sa vie, et au fond, avec Fanny, a une deuxième jeunesse et se détache de cet univers un peu droitier, conservateur, qui avait été le sien.
Dernier mot, Tintin est mort avec Hergé, en quelque sorte, même si on continue de lire ses aventures. Il n'y a pas de nouvelles aventures de Tintin, c'est Hergé qui l'a voulu. Est-ce que vous le regrettez?
Alors, Hergé disait, Tintin c'est moi. Mais le capitaine Haddock, la Castafiore, les Dupont, Tournesol, c'est moi aussi. Et donc, il avait le sentiment que c'était une œuvre très personnelle et que si d'autres faisaient Tintin, ce ne serait plus tout à fait Tintin. Aujourd'hui, vous savez, pratiquement tous les héros de bande dessinée ont eu une deuxième vie ou une troisième vie.
Des spin-offs, c'est ça.
Oui, et Tintin reste unique. Et même si je crois que tout lecteur de Tintin aimerait qu'il y ait un nouveau Tintin, la déception risquerait fort d'être au rendez-vous. Donc, je crois que c'est une décision sage. Hergé était un artiste. Il a à la fois porté la bande dessinée au plus haut et en même temps peut-être qu'il est un pas au-delà.
Merci beaucoup, merci Benoît Peters d'avoir partagé avec nous votre passion pour Hergé. Hergé, fils de Tintin, c'est publié chez Flammarion et puis cette expo Hergé est au Grand Palais jusqu'au 15 janvier prochain. Merci beaucoup.
Et dans la suite de la curiosité sur RTL, on retrouve les frères Bogdanov.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.